France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis qui partent en Charente à la découverte d'un lieu de patrimoine et de création aujourd'hui. À sa mort en 1996, la comédienne Maria Cazares lègue le domaine qu'elle avait acquis 35 ans plus tôt à la commune sur laquelle il se trouve. Le lieu, rapidement dédié au théâtre, est aujourd'hui un centre culturel de rencontres qui vit au rythme des saisons et propose chaque été un festival. L'édition 2025 s'ouvre dans quelques jours, l'occasion pour nous de découvrir cette maison Maria Cazares avec les deux artistes qui la dirigent et la font vivre, le metteur en scène Mathieu Roy et la comédienne Johanna Silberstein. Bonjour Mathieu Roy et Johanna Silberstein.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct des locaux d'ici Poitou à Poitiers. Poitiers qui est à un peu plus d'une heure de route de la maison Maria Cazares, isolée en pleine nature en Charente-Limousine. C'est sans doute précisément ce qui a plu à la comédienne qui a donc acheté ce domaine de Lavergne en 1961 avec André Schlesser. Albert Camus était mort l'année précédente. Pouvez-vous nous raconter comment l'on est passé de cette maison-refuge au centre culturel de rencontres dédié au théâtre que vous co-dirigez depuis 2017, Johanna Silberstein?
Alors bien sûr, Maria Cazares décède en 1996 et elle n'a pas d'héritier et elle se demande ce que va devenir cette maison, cette terre qui est la sienne. Et deux semaines avant sa mort, elle rédige un testament où elle décide de léguer le domaine et tout ce qu'il contient à la commune d'Alloue pour remercier la France d'avoir été une terre d'asile pour elle et sa famille quand elle a fui la guerre d'Espagne. Et donc, en effet, elle décède. Et il faut imaginer la commune d'Alloue, c'est une petite commune de moins de 500 habitants. Et le conseil municipal découvre, en effet, qu'ils sont propriétaires du domaine de Lavergne. Alors, Lucien Simoneau, qui est le maire à l'époque, est un ancien retraité de la RATP. Il sait pas trop quoi faire. Mais il connaît le TNP, il connaît l'aura de Maria Cazares. Sa femme, Janine, était une grande amoureuse de Gérard Philippe. Et donc, il décide, écoute, d'appeler la Maison Jean Villard à Avignon pour leur demander conseil. Et il tombe sur Paul Piot qui leur dit « Attention, vous avez un héritage magnifique. On va vous envoyer quelqu'un pour réfléchir avec vous sur ce qu'on va faire. » Et il demande à Véronique Charrier, qui est une ancienne directrice adjointe du Festival d'Avignon du temps d'Alain Crombec, qui est originaire de Saintes, donc d'un territoire très proche, et qui part là-bas pour faire une mission et pour réfléchir ensemble. Elle a un coup de cœur, elle dit « Ah là là, il faut faire un centre culturel dédié au théâtre ». Et le projet se crée à ce moment-là, l'association est créée en 99, François Martouret, le comédien, en est le premier président, et donc au fur et à mesure du temps, ça devient en effet un centre culturel dédié au théâtre, et notamment à la jeune création.
Qui s'appelle donc d'abord la maison du comédien Maria Cazares, puis la maison Maria Cazares. Alors, vous co-dirigez tous les deux également la compagnie Veilleur, basée à Poitiers. Vous avez fondé cette compagnie, Mathieu Roy, à l'issue de vos études à l'École du Théâtre National de Strasbourg. Quel était votre désir lorsque vous avez repris ensemble la direction de ce lieu, la maison Maria Cazares? Quelle vision, quelle pratique du théâtre souhaitiez-vous y porter?
On souhaitait s'inscrire dans le théâtre populaire et donc ouvrir au maximum cette maison qui est magnifique, comme vous l'avez dit. C'est un lieu de nature et à l'intérieur duquel on est en parfaite harmonie pour créer. Et nous avions découvert, Johanna et moi-même, cette maison en tant qu'artistes, invités par Véronique Charrier pour répéter nos premiers spectacles quand on est sorti de l'école, vraiment. C'est cette maison qui nous a permis de devenir les artistes que nous sommes aujourd'hui, puisque on a eu à disposition un outil de travail, une salle de spectacle, des logements pour accueillir nos équipes artistiques et techniques. Et on a pu y créer nos premiers spectacles et les présenter dans des cadres de sortie de résidence. Et c'est donc dans cette dynamique-là qu'on a souhaité reprendre le flambeau qui avait magnifiquement été porté par Véronique Charrier et de continuer à l'ouvrir aux jeunes artistes et aussi aux habitants du territoire et notamment l'été puisque c'est un lieu magnifique avec des températures caniculaires, on est très bien au bord de la Charente et on peut comme ça évidemment ouvrir la maison et partager différentes scènes pour accueillir les spectateurs.
Alors, je disais un lieu qui vit au rythme des saisons. En réalité, c'est vous qui dites ça. Il y a le festival dont nous allons parler ensuite. Et puis, il y a des résidences, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, on accueille au printemps les jeunes metteurs en scène dans le cadre du dispositif Jeunes Pousses que nous avons lancé en 2017, qui permet à de jeunes artistes sélectionnés dans toute la France, dans les 5 premières années de leur vie professionnelle, d'avoir un lieu qui coproduit, accueille et diffuse leur premier spectacle. L'été, c'est le festival dont on va parler. Mmh. Et à l'automne, on retrouve à nouveau les jeunes pousses qui viennent présenter dans le cadre des rencontres jeunes pousses le fruit de leur travail de résidence du printemps. Et on accueille les compagnies de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont un projet de création qui se déploie avec d'autres partenaires opérateurs de la région. Et la maison est une étape, souvent une première étape de travail avant une création dans des lieux souvent plus équipés comme à Angoulême, à Limoges, à Poitiers ou à La Rochelle.
Qui sont effectivement les grandes villes les plus proches, même si pas tout à fait proches quand même. Alors, le festival s'ouvre samedi prochain et dure jusqu'au 16 août. La spécificité, c'est que tout se passe sur le domaine. Hein. Vous proposez des goûters-spectacles, des apéros-spectacles et des dîners-spectacles. Pouvez-vous nous parler un peu de la programmation, nous dire quelques mots des trois spectacles de cette année, Johanna Silberstein ?
Alors le premier spectacle, donc celui qui est à 16h30, qui est le goûter spectacle, qui est le spectacle famille, s'appelle Prélude en bleu majeur de la compagnie Choc Trio. Alors c'est un spectacle de théâtre gestuel autour d'un clown qui tombe dans l'univers de Kandinsky. Donc il y a tout un travail de clown, mais aussi de vidéo par rapport aux œuvres du peintre. Donc voilà, c'est vraiment, nous au festival, on accueille des familles avec des poussettes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc on a besoin l'après-midi d'un spectacle vraiment très tout public, et c'est un spectacle très généreux, très beau. Ils en sont à la 400e représentation, ils ont tourné à l'étranger, et on est très heureux de pouvoir présenter ce spectacle de cette qualité-là pour l'après-midi. Après, à 18h30, c'est l'apéro spectacle. Donc là, on entre dans du théâtre contemporain. Donc là, c'est l'adaptation du roman de Mariette Navarro. Mariette Navarro qui était à l'école du TNS avec Mathieu et qui est une fidèle collaboratrice. Son dernier roman s'appelle Palais de verre, donc qu'on adapte pour la scène. Alors c'est l'histoire de Claire que j'ai la chance d'incarner.
Voilà, parce que ça c'est le spectacle de votre compagnie. Donc
exactement, c'est juste, Mathieu qui le met en scène. Mm-hmm. Donc Claire, elle travaille dans une grande institution auquel elle croit beaucoup. Et puis peu à peu, les valeurs de cette institution vont se décaler et elle va se sentir complètement à côté de son travail. Et un jour, lors d'une réunion, elle craque. Elle quitte la réunion, elle soupire, elle craque, et elle monte sur le toit de ce palais de verre, de ce grand immeuble, et elle va expérimenter une grande tempête, se confronter aux éléments, et réfléchir à sa vie et à son engagement dans cette entreprise. Mais il n'y a pas que la parole de Claire dans ce spectacle, il y a aussi la parole de ses collègues qui sont au nous, et ses collègues qui vont s'interroger sur pourquoi Claire a disparu, et quelles sont eux-mêmes leur implication dans cette institution. Donc voilà, ça nous interroge sur notre rapport au travail et à ce qu'on fait de notre temps de vie, évidemment, avec toute une poétique très très belle de Mariette. Et enfin, le dernier spectacle qui est à 20h, ça s'appelle Team Leader, une histoire de militantisme, qui est écrit et mise en scène par Grégoire Vauquois. Alors Grégoire Vauquois est un jeune metteur en scène qui sort de l'ENSAT et qui est passé par ce dispositif Jeune Pousse dont vous parlez, Mathieu. Ce spectacle a été créé l'année dernière en septembre à la Maison Maria Cazares et on le reprend pour ses 19 représentations cet été. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme, c'est une comédie, qui décide lors de ses études de faire une première action de militantisme écologique. Et il pense qu'il va être planqué dans l'arrière-base et pas du tout. Il est catapulté chef d'équipe et ça va être complètement rocambolesque sur ce qu'il va vivre. Je ne vous en dis pas plus, mais il va y avoir aussi une prise d'assaut pacifique d'une tour de verre lors de ce spectacle, voilà, qui est inspiré de la propre expérience de Grégoire.
Alors, comme le projet est vraiment lié au lieu, nous allons découvrir cette maison Maria Cazares avec vous sur place. Nous sommes venus vous voir il y a quelques jours. Et avant d'entrer dans la maison elle-même tout à l'heure, nous sommes là dehors avec vous, Mathieu Roy.
Donc là, nous sommes au centre du domaine avec la roseraie qui lie en fait le logis de la Vergne et les dépendances avec cette tour isolée et cette mare. Donc c'est un ancien domaine agricole fortifié qui s'étend sur 5 hectares et qui a été entièrement restauré depuis 2021. Donc là par exemple c'est un petit appentis sous lequel on a refait entièrement la terrasse, donc tout est accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite. Et c'est là où on met la buvette l'été, avec la boutique de producteurs. Là, c'est le tilleul avec les lampions. C'est l'endroit où on accueille les spectateurs pour dîner.
D'accord.
On installe des grandes tables et on peut partager le repas ensemble. On privilégie les grandes tablées plutôt que les tables isolées.
Pour que les gens aussi se rencontrent autour des spectacles.
Exactement, comme ça ils peuvent commencer après le spectacle. En général, ils échangent sur ce qu'ils viennent de voir. Mmh. Et ça permet de rentrer en relation tout de suite. Là, c'est la partie technique, puisque c'est l'office traiteur qui permet d'accueillir et de réchauffer les plats. Et puis au-dessus, vous avez des logements pour les artistes et aussi pour les invités.
Et oui, puisque comme vraiment les spectacles se jouent pendant 3 semaines, c'est ça ?
Oui.
Les artistes vivent sur place.
Oui, les artistes.
Du festival.
Les artistes sont logés sur place et donc ils vivent vraiment entre la salle de spectacle et leur logement. Et ils peuvent passer comme ça de leur espace privé à leur espace de travail en traversant finalement la cour, ce qui est assez agréable. Pour la salle de spectacle, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une ancienne grange. C'est-à-dire qu'on a restauré un bâtiment, on l'a transformé dans une salle de création. C'est un petit Bussan, un petit théâtre du peuple au milieu de la Charente.
Salle de création, il y a écrit sur la porte.
Studio Maria Cazares. Donc là, c'est une très belle salle en bois avec 3 ouvertures sur le lointain qui nous permettent d'aller directement dans le verger. Et quand le spectacle se termine à 17h30, on invite les spectateurs à prendre le goûter dans le jardin et à échanger avec les artistes. C'est un espace aussi assez frais, naturellement. Donc on profite de la clim naturelle de cet espace. Là, c'est ce qu'on appelle notre petit mur d'Avignon. On a parlé de Bussan, maintenant on peut parler d'Avignon. On a notre petite cour d'honneur. C'est un reste de la fortification qui donne derrière, vous avez la Charente. Et chaque été, depuis les rencontres d'été qui ont été créées par Véronique Charrier en 2000, il y a une petite scène en bois qui est montée et un gradin qui permet d'avoir une acoustique très naturelle et puis d'y présenter des spectacles de très tôt avec des dispositifs scéniques qui peuvent être malgré tout assez importants. Mais on utilise aussi la nature, c'est un écrin de nature qui permet de venir raconter différentes histoires avec des perspectives. On a fait notamment, nous, en 2010, décembre, un comédien en rappel le long du mur.
Mais voilà, parce que là, on est dehors, on est juste devant la grange salle. Mais là, donc, on est dehors et en fond, effectivement, il y a ce mur là dont vous parlez. Ouais.
Voilà, ce qui permet de sortir de la salle, d'avoir un moment d'échange après un spectacle dans la salle, et puis de voir aussi qu'un autre spectacle est en cours de préparation et possible, qu'il va se jouer après, juste à côté.
Et donc avec la petite mare à droite et la tour juste derrière.
Je propose de faire le tour du logis pour aller voir le point de vue de l'extérieur, un petit peu comme si on va rejoindre une île qui fait partie du domaine. Et c'est toujours intéressant de faire le tour de cette île et de revenir et de redécouvrir le domaine de Lavergne d'un autre point de vue. Et ce point de vue est, à mon sens, très intéressant puisqu'il nous permet de redécouvrir notamment les 2 tours de ce logis qu'on voit beaucoup moins quand nous sommes au milieu de la cour.
Ouais.
Alors que si vous vous retournez, là, vous allez découvrir les 2 tours qui sont vraiment l'empreinte moyenâgeuse de ce domaine. Et puis la grande terrasse que nous avons agrandie et qui, à l'époque, au 15e, était l'embarcadère puisque nous sommes ici au niveau des douves. Et on avait une possibilité de rejoindre la Charente qui se trouve là, juste à 20 mètres derrière nous. Et on a retrouvé le cadastre napoléonien avec l'architecte Denis Dodement. Et on voit bien qu'ici, c'était une sorte d'embarcadère qui permettait de charger les gabarres avec le blé qui était récolté ici, puis de repartir pour le commercialiser ailleurs. Donc c'est une manière de réinvestir, de raconter aussi l'histoire de ce domaine avec une nouvelle terrasse qui est un espace maintenant de représentation.
C'est ça, maintenant c'est une scène.
Exactement. Là, on a mis un gradin entre ces deux arbres qui permet d'être à l'ombre pendant les représentations en fin de soirée. Et puis à la terrasse, d'accueillir, comme devant le petit mur d'Avignon où nous étions, des scénographies et d'avoir en fond de scène. Alors là, on est plutôt dans le château de Grignan. Vous voyez, donc on est passé de Bussan à Avignon à Grignan. Voilà, on a les trois en un, qui sont d'autres sites.
Oui, parce que c'est le mur de la maison, donc il y a des fenêtres, des volets, c'est ça
oui,
le fond de scène.
En fait. Tout à fait, c'est une très belle demeure avec des pierres apparentes, puisqu'avant il y avait un enduit ciment qui a été intégralement enlevé pour mettre un enduit pierre chaud et qu'on appelle à pierre vue, qui permet de retrouver la pierre, puisqu'à l'époque, dans les années 60, on enfermait les pierres sous du ciment, et ce qui permettait à la maison, ce qui l'empêchait finalement de respirer. Et puis là, on lui permet de respirer et de retrouver cette beauté aussi, quand même, des pierres apparentes. Là, par exemple, quand on regarde, on voit le mur avec la mare. Et c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans ce domaine, c'est d'amener les spectateurs et les visiteurs à voir différents points de vue sur le domaine, sur le parc, tout comme on a des points de vue différents sur des pièces et d'installer des pièces à différents endroits du domaine. Là, par exemple, en bout, là, c'est ce qu'on appelle la presqu'île avec la Charente. Une petite plage de sable qui est très agréable. Et puis après, on va aller sur cette fameuse passerelle qui nous permet de retrouver une île vierge de 2 hectares. Quand je dis vierge, c'est qu'elle n'a connu aucune activité humaine. Il n'y a eu aucun intrant, on n'a rien planté, rien touché, puisqu'elle était inaccessible jusqu'à 2018.
Ah oui.
On a fait tomber des peupliers qui étaient en fin de vie, mais pour le moment, on réfléchit à quel avenir pour cette île, comment lui redonner aussi peut-être une seconde nature, mais sans avoir d'action trop indélicate, on va dire, pour avoir une sorte d'espace privilégié d'un écosystème qui permettrait de se rappeler comment il y a de la nature, de la vie, de la biodiversité.
Et donc là, on est en fait sur le domaine. Et donc ça, c'est ouvert toute l'année à tout le
Alors,
monde.
Alors c'était important pour nous d'ouvrir les portes de cette maison, qu'elle soit accessible, et notamment son parc qui fait 5 hectares. Donc toute l'année, les habitants peuvent venir se promener, profiter de ces 5 hectares de parc. Là, on est sur cette petite passerelle en bois qui est assez magnifique, c'est assez bucolique. Et on peut faire le tour de l'île, puisqu'on entretient les berges aussi, pour permettre aux visiteurs de se promener et de profiter pleinement de ces espaces de nature où on peut découvrir derrière les arbres le domaine de nos voisins, un magnifique domaine agricole également. Et puis, on a une vue magnifique sur le cimetière. Et ça, c'est incroyable, puisque notre ange gardien, Maria Cazares, je crois, veille sur ce domaine, le regarde de là où elle est.
C'est elle qui a voulu explicitement, on va dire, être enterrée ici.
Oui, elle a choisi. Elle a vraiment choisi d'être enterrée à Alou, à côté d'André Schlesser, son compagnon de vie avec lequel elle a acheté cette maison. Et c'est sûr qu'elle a choisi sa place, puisqu'elle est en haut du cimetière. Et qu'elle nous regarde. Là, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup, cette île. On y a fait des spectacles sur des rondins de bois au milieu de la nature. C'est assez propice aussi à la découverte de textes.
Vous savez, quand j'étais gosse, je n'ai jamais pensé à faire du théâtre, mais j'aimais, par exemple, dire des poèmes en espagnol. Là, quand j'étais en Espagne, je hurlais des poèmes. Et j'adorais aller sur un rocher, toute seule, et hurler des poèmes à l'océan, vous voyez. Bon. Eh bien, en extérieur, on a un peu de ça. On joue pour la nuit, pour le ciel, mais si le cadre aussi le permet et ne vous ramène pas un intérieur qui est faux.
C'est Maria Cazares que nous venons d'entendre dans une archive de 1985. Alors, elle aimait aussi beaucoup le théâtre en intérieur, hein, elle le dit dans la même interview, mais l'extérieur, c'est autre chose. Et bien sûr, là, on l'a entendu avec vous, Mathieu Roy, c'est ça, il y a la grange, mais c'est quand même beaucoup un rapport au dehors, ce lieu.
Oui, c'est un rapport aux éléments. Vraiment, hier, on était en répétition, Et c'était assez étonnant puisque on répète entre les gouttes de pluie, alors que Météo France nous annonce qu'on va avoir une semaine prochaine caniculaire. Et c'est ça. Donc on a travaillé avec les comédiens à affronter aussi ces éléments et à s'adapter comment on raconte une histoire entourée de cette nature et de ces éléments, le ciel, la terre, la pluie, c'est magnifique.
Et c'était merveilleux puisque hier donc on répétait Palais de Verre où il y a donc toute une histoire d'orage et on a répété avec un orage incroyable, le vent, la pluie. Donc en tant qu'acteur, ça nous nourrit complètement. Complètement différent que d'être dans une boîte noire dans un théâtre. Alors il faut beaucoup plus projeter la voix. En effet, on est moins sur un rapport intimiste, mais en même temps, on parle au monde, quoi.
C'est ce qu'elle disait aussi, c'est plus exigeant, finalement, l'extérieur. Enfin, en tout cas, il faut être plus exigeant, parce que, quelque part, on peut être servi, justement, par le cadre, mais il faut considérer quand même que ça suffit pas non plus, quoi.
Non, il faut toujours être extrêmement concentré sur le texte et puis ouais. On voit tout, on est avec... Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est qu'on est absolument avec les spectateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout coupé d'eux par les lumières, par le noir. On est avec eux dans le même espace-temps et donc on peut pas tricher. On doit être là à 100%.
Alors, c'est un rapport au théâtre que vous défendez là, mais il y a aussi bien sûr la question du territoire. Qui pose celle de l'accès à la culture, à l'art. Hein. Je disais au début, Alou, c'est à 1h10 de Poitiers, la gare la plus proche est à 35 minutes et il y passe peu de trains. C'est ça aussi ce projet aujourd'hui, c'est défendre une offre artistique, culturelle, dans un endroit certes magnifique, mais difficile d'accès.
Oui, c'est tout l'enjeu. Et tout l'intérêt et l'engagement que nous avons avec cette maison, c'est que avec le festival, nous sommes devenus un lieu incontournable l'été, une sorte de pépite du tourisme culturel en Charente-Limousine. Et on travaille pas seul, on travaille toujours en coopération avec d'autres partenaires sur le territoire. Et cette année, pour la première fois, on l'a caractérisé, manifesté par un partenariat avec 7 autres sites, festivals et sites de tourisme comme le Vélorail de Confolens, le festival de folklore, les Gauloises à Cassino-Mingus ou les thermes de Chassenon. Donc vous voyez, ce sont des choses extrêmement variées et qui sont les richesses de ce territoire. Et c'est important de se dire pour les visiteurs, pour les habitants, qu'on peut être fier de son territoire, de ce qu'on a à proximité de chez soi. Et donc on incite les spectateurs à venir sur les différents sites avec un tarif promotionnel d'un site à l'autre. Et ça, c'était pas gagné au départ. Au départ, la maison, c'est comme un théâtre au début. On se dit, c'est pas pour nous, c'est pas accessible, on n'y est pas invité. Et non, nous, on a ouvert grand ce magnifique portail et il restera maintenant ouvert, on l'espère, pour que les habitants puissent venir quand ils le souhaitent pour le festival et pour d'autres événements également.
Alors, sur cette question du territoire, vous avez créé d'ailleurs il y a quelques années la scène Maria Cazares qui, elle, est à Poitiers. Comment s'articulent les deux lieux et pourquoi fallait-il cette scène en plus ?
Mais écoutez, parce que l'été, c'est magnifique de faire le festival et de rencontrer autant de spectateurs. Mais quand viennent les temps durs et l'hiver notamment, eh bien le domaine est beaucoup plus rude et c'est plus difficile d'accès. On n'y vient pas forcément, alors que l'été c'est magnifique. Donc on s'est dit, c'est dommage, nous qui avons notre compagnie qui est implantée à Poitiers depuis 15 ans, quand on rentrait à l'automne et l'hiver, ça nous manquait. Cette relation de proximité avec les spectateurs, cette possibilité de pouvoir les accueillir dans un lieu de patrimoine chaleureux, de présenter des spectacles et d'avoir ces échanges de convivialité nous manquait cruellement. Donc c'est vrai qu'on a fait ce pari un peu fou mais qui fonctionne, de nous investir dans ce projet de déploiement à Poitiers de la petite sœur de la maison Maria Cazares, la scène Maria Cazares, dans les anciennes écuries de la caserne de Montiers-Neuf, donc un autre bâtiment patrimonial que nous avons également restauré et qui permet d'avoir, alors c'est rigolo puisque c'est la même architecture que la salle de spectacle qui était à Loue, qui est reproduite à Poitiers, et vous passez la porte et vous arrivez dans un espace de restauration et nous avons une cuisine équipée qui permet aussi d'alimenter le festival avec notre cuisinier qui cuisine à partir de productions locales.
Et justement là-dessus, Johanna Silberstein, pourquoi est-ce aussi important, là on a entendu Mathieu Roy dans l'extrait qu'on a tourné sur place nous dire, voilà, c'est des grandes tables, on mange après le spectacle, etc. Pourquoi cette dimension-là il y a le spectacle, mais il y a aussi ce qui se passe autour, pourquoi est-ce que c'est aussi important ?
Bah, c'était vraiment une manière d'inviter les gens qui ne vont pas au théâtre, qui peuvent se sentir un peu éloignés de la culture, dans ce domaine, à vivre une expérience. Nous, on proposait de passer une journée, un peu comme une grande fête de famille, et de venir partager avec leurs amis, leur famille. Donc, toujours que d'abord, il y a le spectacle et après, un moment de convivialité où on peut rencontrer les artistes, mais aussi on peut discuter avec les différentes personnes autour de nous. Et c'était aussi très important pour nous d'introduire dans cette dimension-là d'autres richesses du territoire, notamment les agriculteurs. Il faut savoir que la Charente-Limousine, c'est une terre d'élevage. C'était important que tout ce qui soit cuisiné à la Maison Maria Cazares puisse mettre en valeur ce qui est fait sur le territoire. Donc, voilà. D'ailleurs, cette année, le festival est dédié à Julien Molévrier, qui était un agriculteur et avec qui on avait travaillé plusieurs années sur sa viande de salerce bio. Et Julien est décédé cette année d'un accident agricole. Et c'était vraiment très important pour nous de lui rendre hommage. Voilà, partager un territoire, c'est aussi partager sa vie, ses deuils. Et donc, voilà. Donc, on a fait ce choix de lui dédier le festival. Mais on a aussi tout un travail avec des créateurs et des créatrices. Par exemple, pour la première année, on ouvre une boutique dans le domaine, sur le domaine, où Cécile Paquet, avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui est créatrice de savon et qui a créé un tube de l'été qui s'appelle le savon de Maria Cazares avec des odeurs très espagnoles et qu'elle vend comme des petits pains, comme petits souvenirs, voilà, pour les gens qui passent au domaine et qui permet en effet, Cécile, elle habite à Confolens, elle travaille sur ce territoire-là et donc, comme disait Mathieu, c'est un lieu où on met en valeur le territoire pour que les gens y soient heureux, fiers de le faire découvrir à leurs amis et leurs familles.
Le lien avec le territoire et donc le lien aussi important entre les artistes et le public. On l'a entendu un peu tout à l'heure avec vous, Mathieu Roy. L'idée est de favoriser ces rencontres-là et de casser finalement le quatrième mur, pas seulement pendant le spectacle.
Ben oui, puisque quand vous sortez du spectacle, ce sont les comédiens qui vont jouer à l'apéro-spectacle qui vous servent un verre de jus de pomme et un gâteau qui a été concocté. Donc vous pouvez déjà discuter avec eux. L'acteur va sortir de scène, il va pouvoir vous rencontrer. Et puis si vous allez voir le spectacle de l'apéro-spectacle, c'est ceux qui viennent de faire le goûter qui le servent. Donc si vous avez vu le spectacle, vous n'avez pas pu encore échanger avec l'acteur, vous pouvez lui parler. Il est accessible. Les acteurs sont là, ils font vivre le domaine. Et le soir, après le magnifique spectacle qui est présenté à 20h, tous ensemble, on va servir les plats chauds aux tables et ça va beaucoup plus vite quand on a 140 personnes de venir avec une dizaine d'acteurs servir les plats parce que ça permet aussi aux spectateurs de se rendre compte de toute cette activité qu'il y a autour du spectacle. Cette relation au public est hyper importante pour nous, elle est vitale, nécessaire et pour les comédiens c'est aussi assez agréable de pouvoir entendre les critiques au sens positif que les spectateurs formulent, les questions qu'ils peuvent poser, puisqu'on a aussi souvent la chance d'avoir des auteurs avec nous qui peuvent aussi dédicacer les livres qui sont vendus à la buvette. Enfin voilà, c'est tout une manière d'être ensemble et de partager et de vivre ce temps estival qui est magnifique.
Du reste, juste en quelques mots, elle en parle beaucoup aussi du rapport au public, Maria Cazares, et elle dit que c'est aussi lui qui peut donner du génie aux personnes qui sont sur scène. Elle emploie ce mot, en tout cas dans son esprit, c'est très présent et le public participe vraiment à ce qui se passe sur scène.
Oui, tout à fait. De toute façon, en tant qu'acteur, on le sait, si le public il a envie que ça se passe, déjà, on a fait une grande partie du travail, en fait. Devant un public récalcitrant, c'est beaucoup plus dur. Là, les gens, ils arrivent, ils sont heureux d'être là. Ils ont leur verre à la main pour l'apéro-spectacle, il fait beau. Et même quand il fait pas beau, nous, on a un plan de repli. Et souvent, on est désespéré du plan de repli parce qu'on a la sensation que le spectacle est dégradé. Mais c'est les soirées que les spectateurs se souviennent le plus. Parce qu'en fait, on vit une expérience avec eux. On est au cœur. Et là, aujourd'hui, je pense, où on est dans un monde qui devient de plus en plus aseptisé, être dans un moment, une expérience sensorielle, intense, où on est tous ensemble en tant que personne, c'est extrêmement important.
La suite des midis avec vous, Johanna Silberstein et Mathieu Roy, autour donc de cette maison Maria Cazares, centre culturel de rencontre dédié au théâtre. Ce sera juste après le journal de la rédaction qui arrive dans une minute.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Les midis aujourd'hui autour de la maison Maria Cazares, centre culturel de rencontre dédié au théâtre à Alloux en Charente que nous visitons et dont nous parlons encore jusqu'à 13h avec le metteur en scène Mathieu Roy, la comédienne Johanna Silberstein, directeur et directrice du lieu. Nous avons parlé avant le journal du festival d'été de la maison Maria Cazares qui commence samedi, se tiendra jusqu'au 16 août. Nous avons visité le domaine, nous sommes rendus il y a quelques jours. Vous le disiez rapidement en première partie, Mathieu Roy, ce domaine a été entièrement rénové depuis 2021. Les travaux sont à présent terminés. Ils ont aussi concerné la maison elle-même, le logis qui abrite les meubles et les affaires de Maria Cazares, qui a donc acheté ce domaine en 1961 et y est venue jusqu'à sa mort en 1996. Cette maison, elle se visite, elle est ouverte, mais on peut pas non plus parler à proprement parler d'un musée.
Ah bah non.
Voilà.
Non, c'est une maison. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments d'une maison, à commencer par les pièces, les salons, les chambres, la cuisine. Donc vous avez tous les éléments d'un très beau logis charentais qui fait 600 mètres carrés, qui s'étend sur un grand rez-de-chaussée, un premier étage et des greniers au deuxième étage.
Elle voulait pas que ce soit un musée, d'ailleurs, c'est ça ?
Non, c'était vraiment ce qu'elle avait dit. Elle voulait pas. La seule chose qu'elle a dit, en effet, avant sa mort, c'est n'en faites pas un musée. Et donc, résultat, la manière dont on fait visiter le logis, les objets, puisqu'il y a toute sa bibliothèque qui est dedans, son Molière, un crâne humain qu'elle avait demandé à un ami médecin légiste, et bien tout ça est posé sur des étagères. Et c'est comme ça qu'on le raconte, comme si en fait on veut que les gens. Enfin, c'est comme ça que nous on a découvert cette maison. Ils ont la sensation que Maria Cazares, elle vient de sortir, elle vient de descendre les escaliers et elle est partie fumer une cigarette, quoi. Et donc, en effet, c'est cette ambiance-là qu'on veut garder et les gens, et c'est cette ambiance que les gens aiment particulièrement quand ils viennent visiter le logis.
Alors, cette maison comporte des chambres qui peuvent accueillir des artistes en résidence ou d'autres personnes, puisque depuis peu, vous proposez des chambres d'hôtes. C'est quoi l'idée, Mathieu Roy? On imagine qu'il y a une question de modèle économique aussi, peut-être, de recettes propres à développer.
Oui, et surtout d'une expérience à prolonger, puisque on s'est rendu compte que les spectateurs qui viennent au festival d'été, une personne sur quatre nous demandait « mais où est-ce qu'on peut dormir ?» Alors évidemment, on travaille avec des chambres d'hôtes sur la Charente Limousine, mais au moment de réfléchir en 2019 à quel avenir pour cette maison et les importants travaux qu'il était nécessaire d'engager dans ce logis, puisqu'il n'y avait pas eu de travaux depuis très longtemps, on s'est effectivement posé la question de comment aller vivre après les travaux cette maison. Et notre souhait, c'était que les spectateurs et les visiteurs, en plus des artistes, puissent passer la nuit dans une chambre de la maison Maria Cazares. Et donc, à partir de samedi, nous aurons 5 chambres, 2 suites et 3 chambres, qui pourront accueillir des spectateurs qui, après avoir passé la journée avec nous au festival, pourront dormir dans le logis. Et le matin, ils pourront partager le petit déjeuner avec nous, c'est-à-dire avec les artistes aussi sur place, dans le magnifique jardin.
Alors, vous nous avez fait visiter cette maison pleine de couleurs et de livres, Johanna Silberstein, et nous allons vous retrouver là, dans la bibliothèque.
Alors, attention les têtes, les portes sont un peu basses ici. Donc là, on arrive dans aussi également une des pièces maîtresses de la maison, c'est les bibliothèques de Maria Cazares. Il faut savoir qu'il y a environ 3500 ouvrages ici. C'était vraiment sa bibliothèque, il y avait aussi celle de son père, qui était réfugiée en France, et puis celle d'un ami de son père qu'elle a hébergé tout au long de sa vie. Voilà, Maria Cazares, c'est aussi l'histoire de cet exil espagnol qu'elle représentait très fortement. Elle était quand même un exemple d'une parfaite intégration d'une étrangère qui devient un joyau de la culture française. Et donc cette bibliothèque représente cette double culture, cet intérêt pour la littérature, évidemment pour le théâtre, aussi sa relation avec Albert Camus, parce que les romans qu'on a le plus, c'est la collection Gallimard, donc c'est pas un hasard. Voilà, c'est les livres qu'il lui offrait. Donc c'est une bibliothèque aussi très particulière, rouge et noir, les murs sont rouges, vifs, et les rayonnages des livres sont d'un noir très profond. Pareil, on a vraiment refait à l'identique, on a juste repeint, on a changé le système de chauffage. pour retrouver cette même atmosphère. Et on a en effet le bureau de Maria Cazares, qui est un des meubles qui est à présent protégé, puisqu'on a profité aussi de cette campagne de restauration pour protéger un ensemble de meubles. Hein, vraiment, cette question de mémoire est centrale dans notre dynamique autour de la maison Maria Cazares, puisqu'on sait que c'est le bureau sur lequel elle écrivait sa correspondance dans les années 50 avec Albert Camus. Donc il a aussi cette charge-là.
Même si dans les années 50, elle n'était pas là, mais elle avait déjà ce bureau, quoi, qui l'a suivi.
Exactement. Bah, comme de tous les gens qui ont des résidences secondaires, il y a des meubles qui traversent d'un endroit à un autre, et ce bureau, et bah, il est arrivé jusqu'ici. Et donc, on arrive devant bah, le rayon du théâtre, où on a en effet des livres dédicacés par Villard, par Cocteau, par Chéreau. Il y a aussi une très belle histoire, alors ça c'est un peu pour les spécialistes de théâtre, mais Maria Cazares, elle a été très amie avec Edward Gordon Craig, qui était à la fin de sa vie un artiste anglais qui a révolutionné la pensée de la scénographie au théâtre. C'est-à-dire qu'avant, on était en scénographie plate, en toile, et lui c'était vraiment la scénographie par volume. Et il a vu chez cette jeune Maria Cazares de 22 ans une extraordinaire actrice, et il lui a offert plein de livres. Et aussi des gravures de Sarah Bernhardt. Et donc, on a plein de livres avec des dessins et des dédicaces d'Edward Gordon Craig.
Là, du coup, les livres qui sont là, quand on vient visiter cette maison, on peut en sortir un, par exemple.
Il y a tout un équilibre à trouver avec ça. Parce qu'ils n'ont de valeur que de valeur sentimentale. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucune valeur monétaire, ou alors si peu, sur ces livres. Et en même temps, il faut préserver. Et en même temps, il faut laisser ouvert. Donc oui, moi je dis, si les gens veulent me dire « je voudrais aller lire ce livre dans le parc », je leur fais confiance et je leur dis « pas de problème, mais vous me le ramenez ». Et 99,9% du temps, ils vont me le ramener. Donc j'estime que pour les 0,01% où ça peut mal se passer, je laisse cette bibliothèque ouverte. Mmh. Voilà. Après, évidemment, les gens qui viennent en chambre d'hôte, on ferme les bibliothèques, ils ne peuvent pas se promener tout seuls la nuit dans ces zones-là. Voilà, c'est normal, il faut aussi qu'on puisse préserver pour que ça puisse se transmettre entre générations. Donc les quelques photos qu'on a là, eh bien là on voit le père de Maria Cazares, Santiago Cazares Quiroga, qui était un homme politique de la Seconde République espagnole. Et donc là c'est une photo avec l'ensemble du gouvernement, et donc on le voit avant sa chute évidemment. Très bel homme qui pose très bien. Elle aimait beaucoup son père, il a été très important pour elle. Il l'a beaucoup influencé, lui a appris beaucoup de choses, s'est beaucoup occupé d'elle, elle était fille unique. Et donc voilà, cette photo est là pour rappeler cette histoire espagnole. Et puis on a Maria Cazares en train de se maquiller dans un spectacle. Et on a aussi une photo d'André Schlesser. Cet été, on montrera, je pense, parce que j'ai réfléchi à la visite de cet été. On a caché dans un placard juste là-bas une boîte à cigares que j'ai un jour failli jeter. Enfin, je ne jette pas trop ce qu'il y a ici quand même. Mais vraiment, cette boîte était vide, elle n'avait aucun intérêt. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'elle était dédicacée par Fidel Castro à son amigo André. Puisqu'André était, en effet, un grand voyageur. Et donc, il avait été à Cuba, je le sais, à une époque. Et donc, cette boîte à cigares nous est parvenue. Ça raconte un peu voilà, l'esprit voyageur d'André. En fait, il se comparait souvent au personnage de la tempête de Shakespeare, tous les deux. Maria Cazares était-elle Prospero sur son île? Ici, c'était un peu son île à Maria Cazares, son refuge. Et André, c'était Ariel, l'esprit des airs, celui qui met la vie, qui la soutient et qui en même temps va partout. Donc il y a quelque chose de très juste. Et puis, en effet, quand on replonge dans la tempête de Shakespeare, Prospero, il est exilé sur son île. Donc, il y avait toujours aussi l'idée d'avoir été chassé de chez soi et d'être ici comme dans un refuge. Alors là, on est dans la pièce préférée de tous les visiteurs, ce qu'on appelle le boudoir ou le fumoir. Allez, ici on accepte, Maria Cazares c'était une grande fumeuse. C'est aussi la bibliothèque, rouge et noir. On a une grande banquette en sky noir qui a été faite sur mesure pour pouvoir très clairement lire « Je pense boire un whisky et je pense fumer des cigarettes ». Très tranquillement, voilà, c'était quelqu'un qui se réfugiait beaucoup dans la lecture et pour qui la littérature et la poésie étaient essentielles. Et c'est d'ailleurs une des valeurs qu'on défend corps et âme, aussi bien au festival que dans le choix des artistes qu'on accompagne ici. Il y a des livres en anglais de Bernard Shaw, parce qu'elle a fait un succès avec la correspondance amoureuse de Bernard Shaw, une actrice qui s'appelait Cher Menteur, et qui est le succès qu'elle a fait qui a permis l'achat de cette maison. Donc je pense que c'est aussi par un hasard qu'on ait toutes les œuvres de Bernard Shaw ici. Beaucoup de revues aussi, beaucoup de revues, la revue Europe, énormément de revues, la NRF, qui racontent tout un courant de pensée littéraire de l'époque.
Alors nous revenons en studio. Ce que nous rappelle aussi cette maison Maria Cazares, c'est qu'elle a été véritablement une star, hein, qu'elle a inspiré de très nombreux auteurs, metteurs en scène. Vous me disiez quand on s'est vu qu'elle avait été un peu, pas oubliée, mais passée un peu à l'histoire. Et puis il y a eu Mathieu Roy en 2020, la publication par Gallimard de la correspondance avec Albert Camus.
Et oui, et là ça a été magnifique puisque ça a permis de remettre sur le devant de la scène Maria Cazares, qui effectivement tombait un peu dans l'oubli, puisque quand on est une comédienne, le souvenir vit dans la mémoire des personnes qui l'ont vu jouer sur scène. Moi je n'ai pas eu par exemple cette occasion-là, mais des spectateurs nous le racontent. Et cette correspondance, elle nous a permis de découvrir la personne qu'elle était, l'artiste et l'écrivaine, puisque on a découvert qu'elle avait une force littéraire très importante face à Albert Camus qui est un grand écrivain et un grand homme de théâtre. Ses lettres sont magnifiques. Et on a eu la chance de découvrir ça en 2017, c'est quand nous sommes arrivés à la direction de cette maison, et on a tout de suite eu envie de le faire entendre à travers un parcours sonore, une mise en scène. Enfin, c'est une manière de découvrir aussi cette actrice et cette femme.
Et ce domaine, donc, puisque vous avez enregistré cette correspondance Johanna Silberstein avec Philippe Canales, et qu'il est possible d'écouter au casque en se promenant dans le domaine. Et je propose que nous nous quittions en écoutant l'une de ces lettres adressées à Albert Camus par Maria Cazares.
Je t'écris, assise à mon écritoire, dans ma chambre jaune et rouge, qu'on pourrait appeler dorénavant, si tu y consens, la serre. Elle est en effet remplie de fleurs, de plantes et de fruits. Dehors, il fait gris, ce qui me ravit. Nous aurons ainsi un peu plus de monde dans la salle cet après-midi, et je ne regretterai en rien la rue et sa lumière. Dedans, il fait clair. Oui, de nouveau, il fait très clair. Et comme cela dure déjà depuis un moment, et que seuls mes jours néfastes sont venus troubler ma quiétude et mon bien-être, je commence à croire que le grand orage d'une adolescence attardée est passé, et que j'ai enfin trouvé la bonne manière de vivre, qui n'est autre, avec quelques variantes, que celle de ma plus tendre enfance. Je passe mes journées en état de grâce. Tout y est prétexte à joie, à curiosité, à plaisir, à bonheur. Chaque chose me ravit, et l'idée qu'un jour tout cela ne sera plus me paraît toute naturelle. D'autres, plus ou du moins aussi vivants que moi, ont accueilli la mort avec tant de simplicité. Même l'âge, une vieillesse solitaire, mon cauchemar, ne me trouble plus. Chaque temps, chaque état apporte leur richesse. Il faut simplement savoir les trouver et ne pas perdre sa vie en vains regrets, en craintes sans fondement. Mourir jeune, pourquoi pas? Je n'ai rien à faire dans ce monde de bien précis, rien à créer, rien à former. Le jour où je cesserai de vivre, rien de moi ne restera. Je mourrai bien, et tout à fait. Mon seul devoir est donc de vivre bien, et tout à fait. D'être heureuse, et de donner ainsi le bonheur à ceux qui m'entourent. Une existence à l'image du métier que j'ai choisi. Qu'en penses-tu ?
Et c'est Aurélien Dumont qui a composé la musique que vous avez tissée avec cette correspondance, dont une sélection est à écouter sur place en visitant ce domaine de la maison Maria Cazares à Alloux en Charente-Limousine. Merci beaucoup à vous deux, Johanna Silberstein et Mathieu Roy. Le festival d'été de la maison Maria Cazares commence donc samedi. Merci à vous, merci à l'équipe d'Ici Poitou qui vous a accueilli, en particulier à Nicolas Puissant, et merci à l'équipe des Midis, Léa Weiss-Grus, Lisa Dejode, Nina Gandara, Zoé Coupé, à la réalisation Olivier Bétard et Alban Pelletier, à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier.